Et c'est le journal de Kevin Dufraîche. Bonjour Kevin.
Bonjour à tous.
À la une ce matin, première étape franchie, non sans difficulté pour le projet de loi anti-Covid du gouvernement, validé en première lecture par l'Assemblée nationale au petit matin, au terme d'une nuit tendue. Sur l'élargissement du pass sanitaire et l'obligation vaccinale des soignants, nous serons à l'Assemblée nationale dès le début de ce journal. Les autres titres, Kevin.
Vacciner y compris les populations les plus éloignées des parcours de soins, des campagnes de vaccination mobile ont lieu en ce moment dans les centres de travailleurs migrants. À la une également, le grand jour pour les Jeux. Tokyo 2020 commence officiellement à la mi-journée. Cérémonie d'ouverture dans un stade olympique malheureusement sans public. Et puis un des coups de cœur de Stéphane Capron à quelques heures de la clôture du Festival d'Avignon. Gulliver, le dernier voyage à la fin de ce journal.
Et des invités très politiques ce matin, à commencer par Michel Barnier à propos de la primaire de la droite. Il n'y était pas forcément favorable, mais Valérie Pécresse pourrait avoir clos le débat hier en se déclarant candidate. Il sera à notre micro à 7h50. Et puis à 8h20, une écologiste, ancienne ministre de François Hollande, elle aussi en lice pour la primaire de son courant, Delphine Bateau, députée. Elle nous répondra sur les débats houleux cette nuit à l'Assemblée. Également sur la compétition entre les Verts pour l'investiture à la présidentielle et sur la force écologiste au moment où les éléments se déchaînent un peu partout dans le monde. Posez-lui vos questions sur l'appli France Inter ou en appelant le 01 45 24 7000. Le standard est ouvert.
France Inter. Le gouvernement espérait une adoption dès mercredi soir. Il a dû finalement attendre 5h40 ce matin pour que les députés viennent à bout de son projet de loi dit relatif à la gestion de la crise sanitaire adopté en première lecture. Comme prévu, il élargit le pass sanitaire aux bars, restaurants, centres commerciaux ou encore aux trains début août. Et il rend obligatoire la vaccination pour tous ceux qui travaillent auprès de personnes fragiles, notamment les soignants. Bonjour Claire Flochel.
Bonjour.
Vous avez suivi pour France Inter cette longue nuit de débat à l'Assemblée nationale. Ambiance une nouvelle fois électrique dans l'hémicycle avec plusieurs sujets de crispation.
De nombreux sujets de discorde en effet, en particulier concernant l'article 1, celui qui prévoit l'extension du pass sanitaire et cette obligation pour les employés qui côtoient du public tels que les restaurateurs, les serveurs, d'être en possession de ce pass dès le 30 août sous peine d'être licenciés. Un amendement du gouvernement est venu adoucir le projet. Ce n'est qu'au bout de 2 à 3 mois que l'employeur pourra engager une procédure de licenciement. De l'enfumage, je cite, pour le Parti communiste, une grande brutalité pour les Républicains. Et puis il y a eu aussi cette passe d'armes entre la députée insoumise Caroline Fiat et le ministre de la Santé sur l'obligation vaccinale des soignants. Caroline Fiat, par ailleurs aide-soignante, qui craint la pénurie de soignants.
On a déjà du mal de donner envie de faire notre métier parce que la maltraitance institutionnelle est devenue quelque chose qu'on ne veut pas soulager. Et en plus, on va dire, alors qu'on manque de soignants, chers amis, vous êtes déjà pas assez, mais en plus, on va se passer de collègues. Les aides à domicile, tout ça, qui va aller voir les patients? Qui va aller gérer? C'est qui? Qui va le faire? On ne peut pas, vous pouvez pas là. On veut tous que tous les soignants soient vaccinés. Mais là, ce n'est pas le bon moment, pas avant une 4e vague.
Et voilà la réponse d'Olivier Véran, passablement agacé.
Je vais juste vous dire que, madame la députée, les soignants ont été les premiers, avec les personnes très âgées des EHPAD, à se voir proposer les vaccins. Et on leur a proposé les vaccins directement là où ils travaillent, dans les services, dans les unités hospitalières, dans les EHPAD. On y est allé depuis le mois de janvier. Et nous voulons faire des hôpitaux et des EHPAD des sanctuaires dans lesquels le Covid ne rentre plus. Et pour cela, nous avons besoin de vacciner, à commencer par celles et ceux qui y entrent pour y travailler et sauver des vies. Ça, c'est le discours de vérité, madame la députée. La démagogie, je vous la laisse.
Et clair, finalement, les députés ont apporté peu de modifications au texte d'origine.
Oui, très peu. L'opposition a quand même réussi à supprimer la peine de 5 ans de prison et de 75 000 euros d'amende pour ceux qui présenteraient un faux certificat. À la toute fin des débats, vers 5 heures du matin, le gouvernement est même revenu sur un amendement voté en fin d'après-midi avec un nouveau vote qui rend finalement obligatoire le pass sanitaire pour les patients non urgents et les visiteurs dans les hôpitaux et les maisons de retraite.
Claire Flochel en direct de l'Assemblée nationale. L'Assemblée en première lecture, c'est donc fait. Le texte prend désormais la direction du Palais du Luxembourg. Le Sénat va examiner le projet de loi d'abord en commission, puis en séance à partir d'aujourd'hui. À majorité de droite, il devrait largement réécrire le texte. Les arbitrages définitifs devraient donc se faire ce week-end lors d'une commission mixte paritaire. Pour ce qui est des chiffres du Covid, près de 22 000 nouveaux cas recensés hier, presque 3 fois plus en moyenne chaque jour par rapport à la semaine précédente. Et du côté de la vaccination, un peu plus de 39 millions de Français ont reçu au moins une première injection de sérum contre le Covid. Les autorités sanitaires veulent aller partout pour proposer le vaccin à tous et encore plus aux populations qui sont les plus éloignées des parcours de soins. C'est le cas des travailleurs migrants. Des campagnes mobiles de vaccination sont organisées ces derniers jours dans des centres. Reportage à Paris, Alice Cachaner.
À l'entrée du foyer, deux affichettes annoncent la journée de vaccination. Khalidou se renseigne auprès de l'infirmière.
Qu'est-ce qui vous fait peur, le vaccin ?
Vous avez de Pfizer maintenant ?
Que Pfizer ici ? Qu'est-ce qui vous fait peur, le vaccin ou la piqûre ?
Le vaccin, ouais.
Comme ce jeune homme, ils sont plusieurs à avoir des réticences, explique Léandre Lombay, le responsable du foyer.
Ici, vous savez, c'est une résidence sociale où habitent 150 personnes originaires d'Afrique. Donc on a senti qu'il y avait un peu une réticence par rapport au vaccin et à la maladie elle-même. Donc on s'est dit, le qu'ils aillent se vacciner en ville, il faut que le centre vienne ici.
Vacciner les travailleurs migrants sur leur lieu d'habitation, cela permet également de lever des inquiétudes administratives, explique Souleymane, un Sénégalais en attente de régularisation.
Il y en a qui sont là et qui n'ont pas de pièce d'identité ou bien carte vitale. Ils n'osent pas aller à la mairie ou bien à l'administration pour demander quelque chose. On pense que ce n'est pas permis.
Bonjour monsieur. Asseyez-vous, voilà, je suis le docteur Rist.
Titre de séjour ou non, tous les volontaires à la vaccination sont les bienvenus, martèle le docteur Bernard Rist.
Là, on accepte vraiment tout le monde. Hein. Il y a le processus informatique qui permet de rentrer les gens uniquement sur des critères médicaux, pas sur des critères d'état civil ou d'autres choses, non.
Face au succès de l'opération, une nouvelle journée de vaccination sera organisée le mois prochain.
Le reportage d'Alice Cachaner.
France Inter, 7h07, place au jeu à Tokyo.
Enfin, jusqu'au bout, la tenue de CJO aura été incertaine en raison de la crise sanitaire, mais c'est bien aujourd'hui le jour J, cérémonie d'ouverture au stade olympique de Tokyo à 13h, heure de Paris. Bonjour Fanny Lechevestrier.
Bonjour Kevin.
Vous êtes à Tokyo pour France Inter, ce sera une cérémonie particulière, le stade va sonner bien creux, hein, puisqu'à l'image de tous ces jeux, il n'y aura pas de public au stade olympique tout à l'heure et très peu d'athlètes.
Oui, si l'on prend l'exemple de la France, par exemple, eh bien, ils ne seront pas plus de 80 champions sur les 378 que compte la délégation tricolore. Plusieurs raisons à cela. Comme tous les 4 ans, il y a ceux qui, comme les volleyeurs, débutent leur compétition dès demain. Pas question donc de se disperser, mais c'est cette fois-ci sans regret, reconnaît Erwin Engapet.
La cérémonie d'ouverture dans un stade vide, prendre le risque de se fatiguer, on est tous d'accord pour faire une croix dessus et on ira à celle de Paris.
Il faut dire qu'à Tokyo, le 8 clos et les contraintes sanitaires deviennent un prétexte en fait pour éviter un défilé souvent fastidieux. À vous, la championne de tennis Caroline Garcia.
C'est tard, il fait chaud, tu restes pas mal de temps debout et tu piétines et c'est pas quelque chose que j'aime beaucoup faire et où je me sens très à l'aise.
Et tout l'inverse de sa coéquipière Alizé Cornet, la niçoise, elle le sait, malgré la fatigue, elle ne résistera pas à profiter de sa 4e cérémonie olympique.
Ça commence quand même à 17h30, ça finit à 23h30, donc c'est quand même un petit marathon. Mais c'est fou parce que je les ai déjà fait sur mes 3 précédents Jeux Olympiques, j'ai 31 ans et je pourrais passer mon tour, mais c'est l'allumage de la flamme, quoi. Quand on voit tous ces yeux d'athlètes illuminés par cette flamme, c'est des souvenirs qui restent gravés. Au final, voilà, ce sera une cérémonie d'ouverture unique en son genre.
Unique, hein, avec seulement 950 privilégiés dans les tribunes, pas plus de 6000 athlètes en tout réunis dans un stade de 68 000 places.
Fanny Lechevestrier en direct de Tokyo grâce aux équipes techniques de Radio France mobilisées pour ces Jeux Olympiques. Merci. 300 épreuves en 2 semaines. C'est à suivre bien sûr sur les antennes de Radio France. Et si vous voulez savoir quelles sont les meilleures chances de médailles françaises durant ces Jeux, rendez-vous dès maintenant sur franceinter.fr. Tokyo, où est arrivé Emmanuel Macron. Le chef de l'État s'est entretenu avec le président du comité international olympique ce matin à 3 ans des Jeux de Paris. Avant une rapide visite au Club France, il doit maintenant s'entretenir avec l'empereur du Japon avant d'assister donc ce soir à la cérémonie d'ouverture.
Une nouvelle prétendante à droite pour 2022.
C'était un secret de polichinelle, c'est désormais officiel. Valérie Pécresse est candidate à l'élection présidentielle. La présidente de la région Île-de-France s'engage à passer si besoin par une primaire, contrairement à Xavier Bertrand qui la refuse toujours. Ils sont donc désormais 2 sur la ligne de départ. Part dans le camp conservateur, Élodie Forêt.
À chacun son tour de France. Comme Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, au rythme d'un déplacement hebdomadaire, à commencer aujourd'hui par la Drôme, va aller à la rencontre des électeurs. Objectif, cranter les esprits et gagner dans les sondages de rentrée les quelques points qui la séparent du patron des Hauts-de-France. Une annonce que le camp Bertrand dit accueillir sereinement. La candidature de Valérie Pécresse, rien d'étonnant, rien d'inquiétant, fanfaronne un proche. Nous, la longueur d'avance, on l'a depuis 4 mois. Sauf qu'à droite, l'obstination du patron des Hauts-de-France
France à ne pas jouer collectif énerve et la déclaration estivale de Valérie Pécresse n'est pas pour déplaire, même à ses éventuels adversaires. Ça crédibilise l'idée d'une primaire, applaudit l'entourage de Laurent Wauquiez. Xavier Bertrand ne pourra plus dire qu'il est le seul candidat. Laurent Wauquiez, que l'on dit dans une phase d'entente avec Valérie Pécresse, sera-t-il lui-même candidat ? Il réfléchit, disent ses proches. Seul indice, une rentrée au Montmézin au format certainement réduit. Rien qui ne laisse présager une entrée en campagne.
Élodie Forêt, 16 départements en vigilance orange. Ce matin, dit Météo France, 14 pour les orages. Dans le centre de la France, principalement de Lyon au Cantal, l'Oise et l'Aisne sont en vigilance pour risque de crue. Enfin, à deux jours de la fin du Festival d'Avignon, voilà un des spectacles les plus forts de cette édition, Gulliver, le dernier voyage, adaptation du roman culte de Jonathan Swift par la compagnie bretonne Catalyse, constituée d'acteurs professionnels, certains en situation de handicap, un vent de fraîcheur qui souffle sur la fin de ce festival. Stéphane Capron.
Je m'appelle Gulliver.
Le texte de Jonathan Swift parle de la fragilité collective, de la peur de la mort, des personnages qui entrent en résonance avec le vécu des comédiens handicapés de la compagnie Catalyse, dirigée par Madeleine Louarne.
C'est un sujet qui va bien aux acteurs de Catalyse parce que ils savent la difficulté, ils savent les coups retors et en même temps ils ont toujours cette sorte d'âme sincère et qui reste assez capable de représenter des personnages de fiction.
Madeleine Louarn est accompagnée à la mise en scène par Jean-François Auguste qui veille à tout sur le plateau.
Chaque représentation va être différente. On essaye vraiment au maximum que le spectacle soit tenu après qu'il traverse des émotions un peu différentes à chaque représentation. C'est un peu le principe de n'importe quel acteur, j'ai envie de dire quoi.
C'est chou. De tenir ta main pour la dernière seconde, c'est doux.
Pour incarner le rôle titre, Madeleine Louarn a déniché une perle rare, Manon Carpentier. Elle n'était pas destinée à devenir comédienne. Elle a passé une audition alors qu'elle était dans son institut médico-éducatif en Bretagne.
Je me sens bien, je me sens à l'aise sur scène. Le fait de jouer quelqu'un d'autre, j'aime beaucoup ça.
Quand les gens applaudissent, vous ressentez quoi ?
Bon, on est heureux et puis ça fait plaisir.
Manon Carpentier est éblouissante sur scène. Elle est d'une justesse incroyable. Une grande carrière de comédienne s'ouvre à elle.
Stéphane Capron à Avignon, Gulliver. Le dernier voyage, c'est donc jusqu'à demain au Festival d'Avignon, puis en tournée dans toute la France.
C'était le journal de Kevin Dufraîche. Merci à vous, Kevin.